Je voudrais, avant la prière, lire du psaume 104, les premiers quatre versets. Nous voulons nous lever pour la lecture. Psaume 104, dès le premier verset. Loue l'Éternel, mon âme. Ô Éternel, mon Dieu, comme tu es grand. Tu es vêtu de majesté et de splendeur. Toi qui t'enveloppes de lumière comme d'une robe. Toi qui étends les cieux comme un toit de tente. Qui place les poutres de son palais dans les eaux. Qui fait des nuages son char. Qui s'avance sur les ailes du vent, qui désigne les vents comme ses messagers et le feu comme ses serviteurs. Prions. Père céleste, nous te remercions de tout notre cœur de ce que tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ, ton Fils seul engendré de toi. Nous te remercions de ce que tu es devenu pour nous un Dieu personnel. Tu as rétabli avec nous une relation personnelle en ce que personnellement, dans la chair, en forme humaine, tu t'es révélé. Tu t'es manifesté. Grand est le mystère de la béatitude divine. Dieu est manifesté dans la chair, justifié en esprit. Seigneur, je te remercie de ce que il y a des hommes sur terre à qui tu t'es révélé. Des hommes qui en esprit te voient et te comprennent. Dieu fidèle, Seigneur fidèle, que tu puisses placer cette réunion sous la conduite de ton esprit. Prendre cette réunion sous la conduite de ton esprit. Pardonne-nous tous nos fautes, que ce soit en parole, en action ou bien en pensée. Purifie-nous et sanctifie-nous dans ta présence pour que tu puisses nous exaucer et répondre à nos prières. Nous te demandons que tu puisses sauver ceux qui sont perdus, guérir ceux qui sont malades, délivrer ceux qui sont liés, et que ton évangile soit manifesté, soit prouvé comme puissance de Dieu en ceux qui croient, qui te croient. Bien-aimé Seigneur, tu es ressuscité, tu vis, tu règnes et tu attends jusqu'à que tous tes ennemis soient placés sous ton marche-pied. Seigneur, sois présent aujourd'hui. Nous voulons t'écouter, nous voulons te voir et nous voulons t'expérimenter. Rends-nous calmes dans ta présence pour que ta parole puisse tomber sur un sol fécond. Que tes serviteurs soient une flamme de feu. Oh Seigneur, que ta parole nous atteigne, qu'elle nous soit adressée pour que nous puissions comprendre que c'est toi qui parles avec nous et que tu nous révèles ton dessein du salut. Nous nous plaçons sous le sang précieux de l'agneau. Nous croyons à la pleine, à la totale réconciliation et au pardon total par le sang de l'agneau. Seigneur fidèle, tu nous vois par le sang et l'ange directeur doit passer. Tu nous as fait passer de la mort à la vie. Tu nous as pris de la mort à la vie. Alléluia, gloire à Dieu. Le jour du salut a apparu pour nous. Le soleil de justice s'est levé pour nous avec salut et guérison sous ses ailes, sous ses rayons. Bénis-nous tous. Bénis tous ceux qui peuvent être ici, qui sont en vacances, ou bien ont été retenus. Tu connais les tiens, ô Seigneur. Que tu puisses, comme le grand berger, Seigneur, fais grâce, miséricorde à tes brebis et prendre les agneaux entre tes bras et les porter, bien-aimé Seigneur. Encore une fois, nous te demandons que tu puisses être présent, que un fruit de ces réunions sorte pour toute éternité, que en Autriche, en Suisse, en fédérale Allemagne, partout où ces réunions seront écoutées, que tout soit béni. À toi le Dieu Tout-Puissant, nous te disons pour tout. Merci de tout notre cœur dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais aujourd'hui lire du prophète Ésaïe, le chapitre 28, et ensuite d'autres écritures. Lire d'autres écritures à cela. Je salue tous ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui, très fraternellement. Je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite, et à nous tous, les riches bénédictions de Dieu. Du prophète Ésaïe, chapitre 28, déjà la première partie du verset 19. Les premières parties du verset 19. La deuxième partie du verset 19. Et ce sera une terreur d'entendre une révélation. Car le lit est trop court pour s'y étendre. Ésaïe 28, verset 20 maintenant. Et la couverture trop étroite pour s'y envelopper. Car comme au mont Pérazim, l'Éternel se lèvera. Comme dans la vallée près de Gibeon, il tremblera de colère pour faire son œuvre. Une œuvre étrange. Et pour exécuter son travail. Un travail inhabituel. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de ces deux expressions, particulièrement dans des jours particuliers et des expériences particulières. Dans l'histoire du salut, nous trouvons les deux. Des jours particuliers et des expériences particulières. À signification, à un caractère lié à l'histoire du salut qui va au-delà du cadre habituel. Aujourd'hui, donc ici aujourd'hui, il y a deux versets qui sont nommés, ou bien alors deux événements auxquels il est fait référence, auxquels nous allons tout de suite venir à parler. La première chose que nous rencontrons ici, c'est ce fait, cette expression ici, et ce sera une terreur d'entendre une révélation. Ésaïe 28, la deuxième partie du verset 19. La vraie révélation divine nous touchera, nous saisira. Elle sera plus que précieuse pour nous. Si ici il est écrit, car, comme au mont Pérazim au verset 21, l'Éternel se lèvera. Comme dans la vallée près de Gibeon, il tremblera de colère pour faire son œuvre. Pas une œuvre, pas mon œuvre, pas ton œuvre, mais pour faire son œuvre. L'œuvre qu'il a commencée, il l'achèvera de manière majestueuse. Les deux sont dites ici. Les deux choses. Il tremblera de colère pour faire son œuvre. Ensuite, il est dit, une œuvre étrange. Ce que Dieu fait va au-delà de la compréhension de tous les théologues et de tout ce que les hommes pourraient comprendre. Ce qui est important, c'est que nous puissions reconnaître de la parole quelle promesse Dieu a donnée, qui nous est ensuite révélée, ce qu'il fait selon sa parole, en conformité à sa parole, et de quelle manière il fait son œuvre, jusqu'à qu'ensuite elle atteigne son achèvement, elle soit achevée. Les deux sont écrites ici. Pour faire son œuvre, une œuvre étrange, et pour exécuter son travail, un travail inhabituel. Le verset 21. Encore une fois, que cela soit dit. Ce que Dieu fait est inhabituel. Pour la compréhension humaine, incompréhensible. Ou alors, trop haut ou bien trop profond. De toutes les manières, la chose divine n'est pas aux mains des hommes, au niveau humain. L'homme, par l'Esprit de Dieu, doit être pris dans le divin, dans ce que Dieu fait. L'homme doit recevoir les informations divines pour savoir ce que Dieu a promis et pour ce que Dieu s'est résolu de faire et ce qu'il fait et exécute. Donc, retenons cela. Il se lèvera. Il se lèvera. Au verset 21 de Ésaïe 28, pour ensuite faire son œuvre et exécuter son travail. Vu humainement, parlant humainement, on dirait, est-ce que Dieu travaille? Dieu fait les deux, oui. Est-ce que Dieu agit? Oui, Dieu agit dans les siens selon sa parole, en accord avec sa parole. Et il fait ce qu'il a promis et accomplit ce qu'il a dit qu'il fera. Nous voulons ici revenir à ces deux événements qui, dans ce contexte ici, sont en relation avec l'achèvement de l'œuvre de Dieu et l'exécution du travail de Dieu. Ici, sont donnés dans les Saintes Écritures. Nous voulons revenir et faire nous référer à cela. Il y a une chose qui est écrite d'abord dans 1 Samuel 5. S'il vous plaît, retenez cela dans la mémoire, que ici, il s'agit que Dieu achève son œuvre et exécute son travail. Donc, achève son travail et que pour le faire, avec toute sa puissance, il va s'élever dans toute sa majesté. Dieu aura le dernier mot à dire. Dieu achève ce qu'il a commencé de faire. Cela pourrait être impossible à nos yeux, mais croyez, toutes choses sont possibles à Dieu, impossibles à Dieu, et tous ceux qui croient le vivront. Ici, les versets sont de 2 Samuel, chapitre 5, le verset 17 sont nommés. Ici, il est écrit dans 2 Samuel 5, verset 17. 2 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 17, vous pouvez tous le lire. Moi, je lis à partir de la deuxième partie du verset 19, de 2 Samuel, chapitre 5. L'Éternel lui répondit, « Monte, je te livrerai les Philistins. Monte, et je livrerai les Philistins entre tes mains. » David se rendit à Baal-Pérazim. Nous venons de lire ce mot, ce nom dans le prophète Ésaïe, chapitre 28, n'est-ce pas? Comme sur la montagne de Pérazim, l'Éternel Dieu se lèvera. Ici, nous lisons que David se rendit à Baal-Pérazim et après les avoir battus, il s'écria, « L'Éternel a brisé mes ennemis devant moi. » Comme les eaux percent et brisent un barrage. On donna donc à ce lieu le nom de Baal-Perazim. Ici, il est écrit le mot percé. Comme de grandes eaux, perce et brise un barrage et emporte tout. C'est ainsi que le Seigneur, qui était avec David, a brisé les ennemis et a accordé au peuple de Dieu la victoire. Le Seigneur s'est élevé pour aider son peuple. Le Seigneur va encore une fois, lors de l'achèvement de son œuvre, s'élever pour accorder à son peuple la totale victoire de Golgotha, pour manifester, pas seulement pour la proclamer, mais pour l'accorder, pour la manifester, pour la donner dans la réalité. Une percée comme elle n'a jamais existé sur terre. Dieu, c'est ainsi que nous avons lu, fera un travail inhabituel, une œuvre étrange. Cela serait quelque chose qui n'a jamais été connu, qui n'est jamais arrivé. Nous osons croire que lors de l'achèvement de l'Église, de son Église, le Seigneur fera des choses inhabituelles par sa grâce. Une percée, il accordera une percée, mais il cherche des hommes qui viennent à lui, qui se tournent vers lui, comme David l'a fait, qui le consultent, qui ne font pas ce qu'il veut. Il a demandé, « Devrais-je monter vers les Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit, « Monte, je livrerai les Philistins entre tes mains. » C'est à ce moment-là que David est allé, pas avant. Quand est-ce qu'il est allé? Quand il a reçu la réponse de la bouche de l'Éternel sur ce qu'il devait faire. Il n'a pas seulement fait, parce qu'il pensait devoir le faire, pensait que c'était nécessaire. Non, il a fait après avoir reçu la réponse de l'Éternel. Je crois que Dieu nous accordera sa réponse. Si nous sommes prêts à faire sa volonté, à le consulter avant de faire quoi que ce soit, que cela nous coûte ce que cela nous coûte, pour que la victoire de Dieu parmi le peuple de Dieu soit manifestée et que Dieu puisse être avec nous. Quelque chose d'inhabituel, oui, quelque chose de très puissant. Dieu l'a fait autrefois du temps de David. Comme les eaux percent et brisent un barrage, ainsi que Dieu accorde à son peuple une percée. Et l'ennemi a été vaincu et battu. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, ça, ce n'est pas maintenant une théorie que je suis en train de présenter ici. Ici, dans la parole prophétique, nous pouvons tous le lire, que Dieu le fera. Ici, il est écrit, noir sur blanc, « Car comme au mont Perazim, l'Éternel se lèvera. » Ésaïe 28, verset 21. C'est ce que nous avons lu dans 2 Samuel 5, ce qui s'est passé autrefois. Quand est-ce qu'il se lèvera? Ici, la réponse nous est donnée. Au moment, au temps où il fera son œuvre, une œuvre étrange. C'est dans ce temps-là où il exécutera son travail. Un travail inhabituel. C'est à ce moment-là qu'il se lèvera. Pas avant et pas plus tard. Mais au moment bien précis, au moment fixé par Dieu pour exécuter son travail. Et je suis reconnaissant pour cela. Cette promesse n'a pas été formulée aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, elle a déjà été donnée dans la parole de Dieu. Elle est écrite. L'autre témoignage des Écritures auquel Ésaïe se réfère est écrit dans Josué chapitre 10, peut-être plus connu de nous, dans Josué chapitre 10, au verset 14. Ici, il est écrit, Il n'y a pas eu de jour comme celui-ci, ni avant, ni depuis, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel a combattu pour Israël. Alléluia. Car l'Éternel a combattu pour Israël. Des jours particuliers, des expériences particulières. Dieu a fait dans certains temps des choses inhabituelles. Nous avons la promesse dans la parole de Dieu que cela se répétera au moment où le Seigneur se lèvera pour achever son œuvre. Au moment où il se lève pour exécuter son travail, pour achever son travail et ensuite le septième jour se reposer pendant le millénium. Pour pouvoir se reposer pendant le millénium. Notre Dieu est un Dieu vivant. Il achèvera l'œuvre qu'il a commencée avec grande puissance et majesté. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans les jours de Josué? Josué avait à combattre contre 5 rois. Et la bataille était dure. Il s'agissait d'exister ou de vivre ou de mourir. Et le jour était en train d'aller à son déclin. Et la lune avait déjà apparu. Et la victoire n'était pas encore là. Josué avait besoin de plus de temps. Il a regardé vers le ciel et il a dit, soleil, reste arrêté là. Et toi, lune, toi aussi, reste là. Et cela s'est passé tel qu'il a dit. Je lis ces versets pour que vous puissiez savoir que le Seigneur, dans le prophète Ésaïe, que le Seigneur a inspiré le prophète Ésaïe pour lui révéler par le Saint-Esprit ce qui va arriver lors de l'achèvement de l'œuvre de Dieu sur terre encore une fois. Le temps arrive où, au nom du Seigneur, nous prononcerons ce que Dieu veut faire. Ce temps arrive où nous prononcerons ce que Dieu veut faire. Cela sera prononcé, ce qui doit se passer au moment précis. Nous allons venir en parler dans Josué chapitre 10, au verset 12, nous lisons. Le jour où l'Éternel livra les Amorites aux Israélites, Josué pria l'Éternel et cria à la face des Israélites. Soleil, arrête-toi à Gabaon. Et toi, lune, dans la vallée d'Ajalon. Remarquons ici ces deux mots. Je répète encore une fois. D'Ésaïe 28. Le verset 21. L'Éternel se lèvera. Comme dans la vallée près de Gibeon. C'est ainsi que nous le lisons ici maintenant dans Josué chapitre 10. Mon cœur est touché. Je suis saisi. On peut que dire comme la sagesse de notre Dieu est grande. Comme haute et profonde, si large et profonde est sa sagesse. Que sommes-nous, nous les hommes, dans ces jours, de pouvoir voir les relations, les promesses pour notre temps, les trouver et pouvoir nous prendre notre position et ancrer notre foi dans ces promesses. Car si nous n'avons pas de promesses, où est-ce que nous devons mettre notre ancre? Et qu'est-ce que nous devons croire? La vraie foi a besoin d'une promesse pour être ancré dans les promesses, en elles. Combien ont lu Josué? Combien ont déjà lu les autres écritures aussi jusqu'à Ésaïe 28? sans trouver le contexte et les promesses pour notre temps. Comme nous pouvons être reconnaissants pour le message prophétique, pour le ministère prophétique dans notre temps, pour la révélation de la parole et des mystères qui étaient cachés dans la parole de Dieu. Autrefois, c'est ainsi que nous lisons verset 12 de Josué 10. Le jour où l'Éternel livra les Amorites aux Israélites, Josué pria l'Éternel et cria à la face des Israélites. Soleil, arrête-toi à Gabaon et toi, lune dans la vallée d'Ajalon. Le soleil s'arrêta et la lune aussi. Qu'est-ce que nous devons dire à cela? Une parole, oui, amen. Amen, oui, c'est le seul mot correct et juste ici qui a sa place. Amen. Et Dieu aussi a écouté la voix d'un homme. Je ne sais pas si nous comprenons quand frère Branham, parfois, dans les prédications, dit l'histoire de Josué est en relation avec l'épître aux Éphésiens. Si cela est dit comme ça, alors parfois j'ai l'impression que la plupart, peut-être, n'ont pas reconnu la relation, le contexte. Vous savez, si vous commencez avec le premier chapitre d'Éphésiens, de l'Épître aux Éphésiens, là, nous voyons l'Église dans sa condition achevée. Aucune remontrance, avertissement, correction ici dans Éphésiens 1, verset 3, « Loué soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de chaque bénédiction spirituelle dans le monde céleste en Christ. Car c'est en lui qu'il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous restions saints et irréprochables devant sa face. Et il nous a prédestinés dans l'amour par Jésus-Christ à être des fils qui lui appartiennent selon le bon plaisir de sa volonté. » Ici, l'Église ne nous est pas montrée avec ses erreurs, avec ses batailles. Ici, elle nous est montrée dans l'état divin, dans la position divine, avant même la fondation du monde. Choisi pour être appelé à sortir, pour recevoir la grâce de Dieu, pour appartenir à Dieu, pour entrer dans le repos de Dieu, pour être béni de chaque bénédiction spirituelle dans le monde céleste en Christ. Tel que ici, l'Église, dans l'Épître aux Éphésiens, jusqu'au scellement avec le Saint-Esprit, dans le verset 13, et tout ce qui appartient, l'Église, telle que l'Église nous est montrée ici, jusqu'au scellement du Saint-Esprit, béni de chaque bénédiction spirituelle, c'est ainsi que ce qui s'est passé dans les jours de Josué doit nous montrer que là, il ne s'agit plus de promesses, il s'agissait de leur accomplissement. Il s'agissait d'entrer en possession de ce que Dieu avait promis du temps de Josué. Il y a eu plusieurs étapes. À Abraham, le Seigneur disait, après 400 ans, je ferai sortir ta descendance de ce pays étranger avec bras puissants. Dieu a utilisé Moïse pour le faire. Mais ensuite, c'était seulement du temps de Moïse, l'exode, la sortie, pas encore la conduite à être entré, à entrer dans le pays de la promesse, à entrer en possession du pays. Mais maintenant, ici, nous croyons que Dieu, par le message prophétique, nous a fait sortir pour nous montrer les promesses pour ce temps présent et les placer dans nos âmes. Il les a placées dans nos âmes, mais nous croyons encore à plus que ça. Nous croyons que Dieu veille sur sa parole, pour l'accomplir en ceux qui la croient, pour accomplir ses promesses et pour nous faire entrer dans la possession totale, entière de ce qu'il a promis. Un homme de Dieu parla dans le temps où le pays de la promesse fut pris en possession, au moment où les promesses étaient devenues une réalité. C'est à ce moment-là qu'il a prononcé cette parole et il a dit « Soleil, arrête-toi et lune, arrête-toi ». Et cela est arrivé tel qu'il a prononcé. Je lis le verset 14 encore une fois de Josué chapitre 10. « Il n'y a pas eu de jour comme celui-ci, ni avant, ni depuis, ni depuis, ou bien alors, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel a combattu pour Israël. » Maintenant, suit la raison avec cette phrase. Car l'Éternel a combattu pour Israël, a combattu. Alléluia. L'Éternel a écouté la voix d'un homme. Qui était cet homme? Il avait la parole que Dieu avait donnée à Moïse et qui avait été mise dans l'alliance. Elle a été mise dans l'alliance et il a donné l'ordre aux Lévites de porter l'arche et de traverser le Jourdain. Et c'est un parallèle que nous devons voir. Reconnaître ici Josué, chapitre 1, verset 10. Josué, chapitre 1, verset 10. Josué, chapitre 1, verset 10 et 11. Josué donna ses ordres aux officiers du peuple. Allez de part et d'autre du camp et donnez cet ordre au peuple. Approvisionnez-vous d'aliments. Car dans 3 jours, vous traverserez le Jourdain, là, pour entrer en possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donnera en propriété. Je me donne ici cette liberté encore de venir à parler de cette petite phrase. Approvisionnez-vous d'aliments. Le Seigneur, sois mon témoin. Exactement les mêmes mots. Il les a prononcés le 2 avril 1962. La même formule. Approvisionnez-vous d'aliments. Les choses même ont été nommées dans leur détail. Les aliments. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un temps très particulier. Je ne suis pas ici pour faire de l'enthousiasme. Je suis ici pour nous apporter en accord avec Dieu et sa parole. De l'enthousiasme, chacun peut le faire. Ça n'a pas d'importance avec quoi. Pas de l'enthousiasme et des voix. Et ce qu'on dit, mais il faut que cela soit vrai. Et ça ne peut que être vrai là où c'est en accord avec la parole de Dieu. Et là, on n'a pas besoin de propre clé. Il faut que ce soit la clé de la parole de Dieu. Afin de pouvoir tout replacer dans le bon contexte et de pouvoir classer correctement les processus qui sont encore à attendre. En attente. Cela continue encore ici, dans Josué chapitre 7. Il y a encore plusieurs choses qui sont décrites. Je ne sais pas si nous pourrons tout observer aujourd'hui, mais il y a tout un nombre de choses qui nous sont montrées dans la parole de Dieu sur lesquelles nous ne pouvons pas comme ça passer à la légère. Comme ça. Je lis encore ici du prophète Habacuc pour vous dire ou bien pour vous montrer que aussi ce prophète déjà a parlé de ce qui devait arriver et aussi s'est référé aux derniers jours. Dans le prophète Habacuc, au premier chapitre, ici il est écrit au verset 5. Regardez parmi, parmi les nations et voyez, soyez étonnés, stupéfaits, car il va faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez point si on vous la racontait. Il va faire en vos jours une œuvre. Je voudrais encore aller au chapitre 2, à Habakkuk chapitre 2, versets 2 et 3. L'Éternel me répondit ainsi, « Écris la révélation et grave-la clairement sur des tablettes, afin qu'on puisse la lire sans difficulté. Car la révélation est encore à venir jusqu'au moment fixé. Elle hâte vers le but et ne trompe pas. Si elle tarde, attends-la, car elle arrive sûrement et ne manque pas de s'accomplir. » Alléluia. Loué soit Dieu. Déjà de nouveau, nous nous trouvons sur un sol de révélation. Ici, il est parlé d'une révélation qui doit être écrite. Et si elle tarde, nous devons persévérer et l'attendre, car elle arrive sûrement. Elle ne manque pas de s'accomplir. Oh, quelle assurance nous pouvons avoir en Dieu et sa parole. Tel que le ciel ne peut pas tomber ainsi, sa parole ne peut pas nous décevoir. Les collines pourront brûler, les montagnes disparaître, mais celui qui croit constatera que la parole de Dieu reste toujours éternellement vraie. Et notre Seigneur dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le Seigneur n'a pas dit complètement à la fin, il y aura un grand homme qui apparaîtra et celui qui va achever mon œuvre et exécuter mon travail. Non, non. Le Seigneur dit, je me lèverai. Alléluia. Dieu a envoyé un grand homme avec un message puissant pour en nous éveiller une espérance justifiée sur ce qui va arriver. Mais ce qui doit encore arriver, tout ce qui doit se passer, ça, Dieu ne l'a confié à personne. Ça, il s'est conservé ça. Il y en a qui, dans le calme, pensent à haute voix et parfois même le disent et demandent et disent, « Oui, mais frère Franck, pourquoi est-ce que tu ne fais rien ?» Tous les autres font quelque chose partout. Il y a du mouvement partout. On voit les gens faire quelque chose. Mais combien de temps? Tant qu'il y a des hommes derrière qui font bouger les choses. Mais si ces hommes ne font plus bouger les choses, alors il n'y aura plus de mouvement. Non. Ce dont nous avons besoin dans ces jours, c'est d'une véracité divine. Et aucun homme a le droit de tromper le peuple de Dieu de manière pieuse et religieuse. Le peuple de Dieu a le droit d'être sorti du mensonge et de la tromperie. Et c'est pour cette raison justement que Dieu a envoyé ce message. Mais pas pour de nouveau faire une nouvelle Babylone, une confusion. Mais pour, dans la sobriété, nous conduire dans sa parole. Et pour cette sobriété qui n'arrange pas plusieurs personnes, nous en sommes reconnaissants. Et que les saints qui ne disent pas, soyez sobres et veillez, et soyez sobres pour vaquer à la prière, la sobriété et de veiller. Ces deux choses sont importantes. Parmi le peuple de Dieu, dans ces jours, pour que le Seigneur entièrement nous apporte dans son, dans sa dépendance, que personne plus, personne fasse quelque chose. Et là, je pense à notre bien frère Branham. Combien de fois il s'est référé à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans ce, dans le temps, en tant que fils de l'homme, dans, exécutait sa mission prophétique. Et vous pouvez le lire dans Jean chapitre 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est qu'il voit le Père faire quelque chose. Alors le Fils le fait de la même manière. Donc, comme fils de l'homme, dans son, dans sa mission de prophète, il était entièrement dépendant de Dieu. Seulement ce qu'il voyait en vision, ce que le Père lui montrait, c'est ce qu'il faisait. Et l'Église doit, dans ses derniers jours, venir dans cette dépendance directe avec Dieu, dans la conduite à 100% directe de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, par inspiration divine, recevoir ce qui doit être prononcé pour que ensuite cela arrive quand on le prononce. Réjouissez-vous aujourd'hui avec moi de ce que le Seigneur a donné ses promesses par le prophète Ésaïe, par sa grâce. Et c'est-à-dire pour nos jours. Cela est pour nos jours, en relation à l'achèvement, à la fin de son œuvre qu'il a commencé et qu'il achèvera de manière glorieuse. Auparavant, n'est-ce pas, tout ce qui était écrit dans le prophète Ésaïe était valable. Vous savez, l'Esprit de Dieu n'a rien oublié. Au chapitre 28, nous avons toute une liste de la condition que nous rencontrons. Verset 8, il est écrit, Ésaïe 28, verset 8, « Car toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures jusqu'à la dernière place. » Toutes les tables. Chacun donne de son mieux ce qu'il pense ce de devoir donner au peuple. Non. À qui donc enseignera-t-il la connaissance et à qui interprétera-t-il les révélations? Aux enfants qui viennent d'être sevrés de lait, qui viennent d'être sevrés du sein de leur mère? Cela n'est pas possible non plus. Et qu'est-ce que Paul écrit? C'est aux adultes qu'est déterminée la nourriture solide, pas seulement du lait. La révélation, les révélations divines de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Donc, nous ne sommes plus assis à cette table-là qui sont pleines de vomissements et d'ordures. Non. Mais nous sommes assis à la table du Seigneur qui nous a garnis, qui nous a servi pleinement et nous nous nourrissons au bien, aux richesses de sa maison. Si frère Branham utilise cette expression, nous sommes un peuple privilégié. Alors cela est vrai. Dieu nous a accordé un grand privilège de l'écouter et de le reconnaître. Cela continue encore ici. Au verset 10, il est écrit, Ésaïe 28, « C'est toujours toi fais ceci, toi fais cela, vous faites ceci, vous faites cela, ici un peu, là un peu. » Oui. Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit? Est-ce que c'est parce qu'on voit aujourd'hui, ensuite, de ce « faites ceci, fais ceci, fais cela, toi, vous faites ceci, vous faites cela, ici un peu, là un peu. » Ensuite, le saut à la révélation divine, le saut à la parole de Dieu. Pas « faites ceci, faites cela ». Donc, des choses à moitié et des paroles humaines, de passer à la chose parfaite qui vient de Dieu, à la parole originale de Dieu révélée pour notre temps. Cela continue encore. Je fais encore aussi un petit saut. Et ici, à partir du verset 16. C'est pourquoi le Seigneur Dieu a dit, sachez-le, c'est moi qui pose un fondement en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, précieuse, solide, comme le roc. Celui qui croit ne sera pas confus. Cela continue encore. S'éloigner des choses faites en partie, ici un peu là, faites ceci, faites cela. Éloignez-vous de toutes ces tables où les hommes ont vomi et passez aux instructions du Seigneur, à la parole de Dieu, aux instructions, à la révélation de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Le Seigneur appelle son peuple à sortir. Ensuite, suit au verset 19 de la deuxième partie, et ce sera une terreur d'entendre une révélation du verset 19 du chapitre 28. Alors, si on écoute la révélation de la parole de Dieu, elle va nous éloigner des paroles humaines, des paroles qui sortent de la bouche des hommes, des interprétations, et va nous faire passer à ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ça, nous devons tous avouer ce qui est écrit ici au verset 20. Car le lit est trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'y envelopper. Une condition étrange, n'est-ce pas? Ici, Dieu, avec un exemple pratique de la vie quotidienne, veut nous montrer que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de faire un peu ici, de faire un peu là. Faites ceci, faites cela, ça ne suffit pas. C'est peut-être raison que nous devons passer à la révélation de la parole de Dieu. Et celui qui l'écoute, ce sera pour lui comme une terreur. Il en sera saisi parce que Dieu, au milieu de toutes ces œuvres humaines, Dieu a parlé. Ou bien alors de cette parole humaine, Dieu a parlé. Et pour nous délivrer de la bouche des hommes et de ce qu'ils font. La parole de Dieu et l'œuvre de Dieu vont ensemble. Et le peuple de Dieu aussi. D'abord, la parole est adressée au peuple. Nous l'écoutons, nous la croyons et ensuite nous avons part ainsi à ce que Dieu fait maintenant. Où les hommes ont leurs œuvres, Là, c'est leur parole qui a de la valeur et qui est valable. Et nous sommes apportés en relation avec ce que les hommes font. Et là, après, c'est la grande déception. Tout cela sera comme un ballon qui va dans l'air. Il n'y a rien à l'intérieur. On pique et ça s'envole. C'est que du vent, du théâtre. Il n'y avait rien derrière. Est-ce que Dieu ne parle pas pour le prophète Ézéchiel? Ils vous ont fait du vent. Et rien d'autre. Ils ont parlé sans que je les ai envoyés, sans que je les ai ordonnés de parler. Ils n'ont pas guéri la blessure de mon peuple. Qu'est-ce qui est écrit dans les prophètes? On peut le lire. Que notre Dieu soit remercié. Un jour, comme les jours de Josué, si cela n'a pas existé auparavant, un jour qui n'a jamais été et qui depuis n'a jamais été non plus. Mais cela sera répété. Dans le jour que le Seigneur a fixé pour achever son œuvre. Comme sur la montagne comme au mont de Pérazim, dans la vallée de Gibeon, le Seigneur s'élèvera pour achever son œuvre, pour exécuter et achever son travail. Vous savez, et cela va à 100% parallèlement avec ce que Dieu, au commencement, ou bien pour le commencement de l'Église du Nouveau Testament, a promis pour le temps du Nouveau Testament, pour le commencement, c'était des promesses pour le commencement du Nouveau Testament, jusqu'à le prophète Jean, comme celui qui devait venir préparer le chemin. Mais ensuite, après que le chemin fut préparé, après que celui qui devait préparer le chemin avait terminé sa mission, il n'a pas encore envoyé un prophète pour annoncer quelque chose. Lui-même, le Seigneur, a apparu. Et tel que c'était lors de la première venue de Christ, c'est ainsi que ce sera lors de son retour. Il n'y aura plus un homme particulier. Après le message prophétique, quand le temps est là, sera là. Alors le Seigneur lui-même se lèvera. Alléluia! Alors, et il achèvera son œuvre qu'il a commencée. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Pour que à aucun homme la gloire soit rendue. Dieu dit, je suis le Seigneur et je ne donne ma gloire à aucun homme. Il a son église qu'il a rachetée lui-même, sauvée lui-même et qu'il bâtit. Il a dit, je bâtirai mon église. Il a fondé, il a bâti et c'est lui aussi qui l'achèvera. Et si nous savons cela, alors nous pouvons nous reposer dans la foi. Et est-ce que nous devons nous attendre à ce qu'un homme apparaît? Alors, la pensée première serait, mais est-ce que vraiment il fait les choses de la part de Dieu? Est-ce que c'est vraiment correct tout? Est-ce que ça... Mais si Dieu nous a donné, si Dieu nous a déjà montré l'orientation à suivre, est-ce que nous avons seulement besoin d'obéir et de suivre? Et d'être dans la grande attente de ce que le Seigneur lui-même va faire. Les attendre dans la patience et dans la persévérance. Alors, les choses vont bien pour nous. Comme le Seigneur a dit, je vais vous le lire encore une fois de tout mon cœur. Ésaïe 28, verset 21. Car comme au mont Pérazim, l'Éternel se lèvera, comme dans la vallée près de Gibeon, il tremblera de colère pour faire son œuvre, une œuvre étrange. Et pour exécuter son travail, un travail inhabituel. Complètement à la fin, il ne sera plus parlé d'un prophète ou bien d'un homme de Dieu particulier. Alors complètement à la fin, le Seigneur lui-même, l'Éternel, se lèvera et combattra pour son peuple, pour nous faire entrer en possession des choses, des promesses qui doivent encore s'accomplir. Nous pouvons lui faire entièrement confiance. Je le répète encore une fois. N'attendez rien de moi que je vienne pour faire de l'enthousiasme. Attendez de moi seulement qu'avec véracité, et sincérité et honnêteté, je vous apporte la parole de Dieu avec véracité et sincérité et honnêteté. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. C'est ce qui compte. Au commencement était la parole. À la fin, doit être aussi de nouveau la parole. Jésus Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et il est le dernier. Dieu nous utilise seulement pour appeler à sortir, pour faire l'appel à sortir et ensuite, pour apporter la sortie. Et quand son peuple sera sorti, alors il se lèvera. Et de manière majestueuse, il achèvera son œuvre. La victoire de Golgotha se fera entendre et voir. L'achèvement de l'œuvre de Dieu sera majestueuse. Encore une fois, que cela soit dit en insistant. Est-ce que nous devons nous attendre à un homme? Attendre un homme? Qui devrait être cet homme alors? Non, le Seigneur, lui-même qui a sauvé son Église, qui l'a fondée, qui l'a appelée à sortir et qui l'a bâtie, qui en elle a établi les différents services et qui l'appelle à sortir pour la purifier et la sanctifier. Le même Dieu a en nous placé la parole de la promesse de l'heure et nous la croyons. Un tel jour, comme dans les jours de Josué, existera encore. Ce sera le jour que le Seigneur a fait pour achever son œuvre. Je suis reconnaissant de ce qu'il n'a pas laissé la dernière action à un homme, mais il la fera lui-même. Et nous pouvons déjà aujourd'hui dire, ce qu'il fait est bien fait. Et alors, il pourra regarder tout comme au commencement de la création et dire que tout est très bien. Et Dieu s'est reposé le septième jour de son travail après qu'il ait achevé toutes ses œuvres. La même chose aura lieu ici. Le septième jour, dans le septième millénaire, le Seigneur et nous avec lui, nous serons dans le repos et en paix après le festin de noces de l'agneau. Que Dieu le Seigneur puisse ensemble nous bénir. Dans mon cœur, ça chante et la reconnaissance monte à Dieu. Qui sommes-nous pour que Dieu nous ait accordé la grâce dans ce désordre, cette confusion où tout est dans la confusion et personne ne sait ce qui est encore juste et vrai? Dieu nous a accordé la grâce d'être attiré à sa parole, de ressentir en nous cette liaison à sa parole, pas des interprétations, pas des explications, pas aller à gauche ou bien à droite, mais dans la grande attente, demeurant dans la parole de Dieu. Nous sommes dans la patience, attendant ce que Dieu va encore faire. En temps, nous utilisons le temps tel que nous l'a ordonné d'aller de ville en ville et de pays en pays pour faire retentir l'appel à sortir. Mais c'est lui qui fera ensuite, qui fera lui-même l'achèvement. C'est lui-même qui prendra entre ses mains l'achèvement. Et là, nous nous enregistrons et nous sommes reconnaissants et remercions notre Dieu de tout notre cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour la prière. Père céleste, prosterné, humble, mais avec reconnaissance devant ta face, nous courbés devant toi, nous venons devant ta face. Tu es mon témoin au Seigneur. Cette parole, je ne l'ai pas cherchée. C'est toi qui me l'as accordée. Ô Seigneur fidèle, que ton peuple en toi puisse trouver le repos et la paix. Il y a un repos présent pour le peuple de Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur fidèle, et encore plus que ça, tu as, n'est-ce pas, élevé ta parole au-dessus de ton nom et tu as révélé ton nom. Ensemble, nous te remercions pour le message prophétique, pour l'enseignement, pour l'introduction dans tes mystères. Et plus le temps passe et encore plus en nous, cette attente monte, grandit. Ô Seigneur, lève-toi bientôt, élève-toi bientôt et achève ton œuvre et exécute et achève ton travail. Je te remercie pour cette réunion aussi, pour les contextes, pour la révélation de ta parole et de ta volonté. Nous te demandons maintenant pour nos amis, s'il y aurait quelqu'un ici qui ne t'a pas encore expérimenté, toi et ta grâce, que cela se passe maintenant. Tu convaincs du péché que nous n'avons pas cru. Par ton esprit, tu nous convaincs de ce péché-là. Et tu conduis encore plus. Tu convaincs encore plus. Tu nous révèles aussi que le prince de ce monde est déjà jugé. Tu ne nous laisses pas mourir dans nos péchés. Tu as payé le prix. La condamnation est tombée sur toi. Tu l'as portée pour que nous soyons libres. Et nous sommes libres. Nous te remercions pour cela. Nous avons été libérés. Et nous te remercions dans le Saint-Nom de Jésus-Christ pour tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.